J'avais à te dire sur le vieux. C'est dans Forrest Gump.
Oui.
Si vous vous souvenez de la scène. Voilà, bah après ce matin, n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons nos enfants. C'est exactement ça, merci beaucoup David.
Pour moi, c'est une éthique. Alors, c'est plus une éthique de la responsabilité qu'une éthique de la promesse.
Oui.
Toi personnellement, je suis attaché intergénérationnel.
Oui.
C'est-à-dire que nos actes portent conséquence d'abord pour l'avenir.
Oui.
Et pour moi ça me parle beaucoup.
Oui, mais en tant qu'avocat, vous êtes d'accord que le fait que le contrat puisse être tenu par une signature est quelque chose d'éminemment important.
Ah oui, bah justement, voilà, c'est pour ça que ça me parlait d'autant plus.
Oui.
Mais en fait, ce que je n'arrivais pas bien à voir, c'est cette responsabilité, justement, l'éthique de la promesse, l'éthique de la responsabilité. Donc, lorsqu'on signe un contrat, il y a un co-contractant,
oui.
Il y a un engagement de l'un qui répond à l'engagement de l'autre.
Oui.
C'est ce qu'on appelle les contrats synalagmatiques. Et dans l'acception telle que vous nous l'avez décrite, je n'arrive pas à voir si c'est un engagement à l'égard de Dieu, un engagement à l'égard du livre ou un engagement à l'égard des hommes. Vous allez peut-être...
Je vais vous dire que c'est assez à l'égard des hommes seulement. Et qu'à partir du moment où c'est à l'égard des hommes, à ce moment-là, c'est à l'égard de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un retournement. C'est l'éthique de la relation à l'autre précède la métaphysique de la relation à Dieu. Une phrase de Lévinas. Et en acceptant, il y a une évolution des contrats. Moi, je vous ai cité le texte de Nietzsche qu'il faudra relire vraiment et qui est très très important. Et bien sûr, à l'époque, il n'y avait peut-être qu'un seul signataire qui mettait, c'est peut-être celui qui s'engageait, qui signait à rembourser, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a un lien entre la promesse et l'écriture. La signature, c'est une forme d'écriture. Et en même temps, donc, de responsabilité. Et c'est pour cela que c'est une responsabilité de tenir sa promesse vis-à-vis de l'autre homme, qui est en lien avec le fait qu'il y a des traces écrites, donc c'est la question du livre, et c'est lorsqu'une société est tenue et tient ses promesses et crée une justice et une justesse par le droit que l'on peut être dans une relation qu'on appellera métaphysique ou une relation avec le divin. C'est comme cela que... C'est le droit qui crée le divin.
Et c'est l'ontologie de la promesse, oui. n'a de force qu'à partir du moment où il y a justement cette signature,
oui,
physique.
C'est ça.
Sinon, elle n'existe pas.
Exactement.
Elle n'est que promesse.
Exactement. C'est-à-dire, en fait, la signature physique, concrète, qui est masculin-féminin, se porte garant par le droit, et donc par les institutions qui se portent garant du droit, que la promesse sera tenue. De rien. Autre question? Dites-moi, les personnes qui partent, dites-moi votre nom comme ça. Je le sais. Je mets un nom au visage.
Vous avez... Charles.
Charles. Alors, vous êtes monsieur Barbie.
Non. Bonne soirée à tous.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, vous allez dans l'Orne?
Non, on va passer par le Mans.
Ah, en voiture?
Oui.
Bon, il n'y a personne qui passe par Dreux? Non. Okay, parce que si vous passez par Dreux, j'habite à Dreux.
Désolé.
Très bien. Par Charles?
Voie rapide.
Très bien. Voie rapide, mais...
C'est Dreux, alors.
Par Dreux, c'est rapide aussi.
C'est la RN12, c'est un peu moins rapide.
Oui, d'accord, bon.
Désolé.
Pas de problème.
Tout
merci
Dreux,
beaucoup.
Bonsoir. Tout le temps à Dreux.
Oui, je m'attends à Dreux, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que après, moi, j'ai un train dans une demi-heure. Donc
sur juste, Marc Alain, pardon, sur la partie arrivée d'Abraham en Canaan.
Oui.
Tu évoquais rapidement que c'est le moment de l'apparition du monothéisme, enfin en tout cas que c'est un moment de rupture et d'apparition. Je n'arrive pas à voir en quoi du polythéisme et du culte, enfin des idoles, et ce passage à un monothéisme. Quel est le lien?
C'est-à-dire qu'en fait, Abraham va transformer la relation aux idoles,
ouais,
en relation à l'autre homme. C'est-à-dire que dans le chapitre où les trois anges qui ressemblent à des hommes arrive le virus sous sa tente, il va les accueillir, et c'est là où on voit que pour lui, ce qui est important, c'est pas d'aller se prosterner devant une idole, devant un dieu, mais que là, c'est justement la responsabilité et l'éthique de l'accueil de l'étranger qui va devenir absolument premier. Et le monothéisme, c'est pas le fait de remplacer des idoles par une autre idole ou par un dieu qu'on appelle dieu, quel que soit le nom, c'est d'être capable de remplacer ce que j'appellerais une pulsion sacrificielle dans une relation à un ou même à un ou des dieux par une relation éthique, sociale, par rapport à l'autre homme. Et ce que je reprends la formule que j'ai utilisée tout à l'heure, la rencontre avec Dieu se fait dans la rencontre avec le visage de l'autre homme, c'est-à-dire que dans l'accueil, et dans, c'est là où la notion va devenir, je dirais, le point central de la théologie. C'est une théologie de l'hospitalité. Voilà. Et là, il faut relire Derrida, bien évidemment, mais surtout Lévinas, qui a développé cette question. Donc, théologie de l'interprétation et théologie de l'hospitalité. Oui, votre prénom ?
Bruno. C'était vraiment lumineux, il y avait tout un
monsieur Constantini,
des éclats. Un point particulier, j'étais très intéressé par le fait que vous disiez que le judaïsme n'est pas une civilisation autonome en soi,
oui,
mais elle se greffe. Est-ce que ça veut dire que la naissance de l'État d'Israël depuis, oui, 70 ans,
oui,
peut avoir pour corollaire de changer le judaïsme?
Non.
D'un point de vue religieux, j'entends.
Oui, mais il n'y a pas de, justement, j'ai essayé de montrer qu'il n'y a pas de religion. La seule religion qu'on peut avoir, c'est une éthique, et une éthique justement de l'hospitalité, de l'altérité. À partir du moment où l'État d'Israël est un État de droit, ce qu'il est, et qu'il est un État qui a des relations diplomatiques avec tous les autres États, avec cet événement presque messianique, si on peut dire, sous forme poétique, avec des États arabes qui étaient prêts à le manger tout cru depuis des décennies, c'est qu'il n'est pas isolé. Il faut savoir que la création, aujourd'hui, qui se passe, la création qui est mécanique, qui est technologique, qui est médicale, qui se fait en Israël, non pour elle-même, mais pour rayonner dans le monde entier. J'aime beaucoup les gens qui boycottent Israël. Par exemple, il y a le BDS qui boycotte. Et je leur réponds toujours, mais si vous voulez boycotter Israël, ne prenez pas un ordinateur. Dans un ordinateur, il y a Intel, c'est Israël. Donc, c'est-à-dire que ce qui fait que Israël reste justement proche et très proche de sa vocation, c'est que l'ensemble de ses réalisations, c'est pour continuer à avoir des relations économiques, humaine avec l'ensemble de l'humanité. J'aime beaucoup à me souvenir que la scène du jazz contemporain, ce sont des jazzmen israéliens, par exemple. Ils sont à New York, ils sont à Amsterdam, ils sont à Berlin. Le sionisme a été un moment de l'histoire juive dans un moment de crise ou dans un moment de refuge. L'antisémitisme a pris d'autres formes et n'a plus, en tout cas dans le monde civilisé, comme on dit, n'a plus cette même force. Et Israël n'a pas pour vocation de se replier sur lui-même, même si ça reste une terre de refuge, mais à être en relation permanente avec les autres États, que ça soit économique, que ça soit politique, que ça soit footballistique ou autre. Et donc, non, Israël, la naissance d'Israël ne change pas dans la mesure où je pense que Israël, déjà même Ben Gurion, bon, il a fait des erreurs, mais une des erreurs qu'il a faites, bon, ça j'en parlerai une autre fois, c'est d'avoir changé le nom de cet endroit d'un point de vue géographique, parce que pour moi cet endroit s'appelle Palestine et pas Israël. Le problème israélo-palestinien vient du fait qu'on a réintroduit le terme d'Israël dans un lieu qui s'appelait Palestine. Quand en 1947 on a voulu diviser la Palestine en deux États, une Palestine juive et une Palestine arabe, c'était formidable parce que les deux auraient été palestiniens. Donc il n'y aurait pas eu un problème israélo-palestinien, ni un problème palestino-palestinien. Mais moi je dis, nous sommes des Palestiniens juifs. Et Ben Gurion a fait cette erreur, parce que c'est ça qui provoque, je pense, une problématique politique. Et là où le langage intervient, et c'est très intéressant, mais c'est un autre débat. Si je veux avoir mon train, si quelqu'un veut bien m'emmener en voiture,